Midi 13h, Sud Radio dans tous ses états, Benjamin Glaise.
Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver à l'heure du déjeuner, à l'heure aussi où certains députés affûtent leurs arguments pour ou contre le pass vaccinal, car oui, dans quelques minutes, le projet de loi arrivera à la commission des lois. La députée La France Insoumise, Danielle Obono, fait partie de cette commission. Elle nous dira pourquoi elle est opposée à ce pass vaccinal. Et puis face à la politique du tout vaccinal, qu'en est-il des traitements? Eh bien, un petit Français sort du lot avec un médicament qui serait efficace contre Omicron. Le laboratoire en appelle aujourd'hui au gouvernement pour accélérer le tempo. Enfin, le face-à-face, ce midi, prendra un peu de recul, c'est nécessaire dans tout ce fracas de l'actualité, puisqu'on s'interrogera sur notre état de droit. Est-il menacé? On verra ça. Parlons vrai sur Sud Radio. A tout de suite.
Midi 13h, Sud Radio dans tous ses états, Benjamin Glaise.
Et dans quelques minutes, donc, le projet de loi sur le pass vaccinal commencera son parcours au Parlement, parcours au pas de charge pour une adoption le 15 janvier. C'est en tout cas le vœu du gouvernement. Première étape, donc, aujourd'hui à la commission des lois de l'Assemblée nationale avec l'audition du ministre de la Santé, Olivier Véran. Le projet de loi va-t-il passer comme une lettre à la poste? On voit ça tout de suite sur Sud Radio avec notre invité du fait du jour.
Sud Radio Berkov dans tous ses états, le fait du jour.
Notre invité fait du jour aujourd'hui pour en parler sur Sud Radio, nous recevons Danielle Obono, députée de Paris, La France Insoumise, membre, on le rappelle, de la commission des lois. Bonjour Danielle Obono.
Bonjour.
Bonjour Danielle Obono. Oui, on vous entend, Danielle Obono. Merci en tout cas de prendre le temps un petit peu d'être avec nous ce midi sur Sud Radio à quelques minutes effectivement de cette commission des lois. Vous serez, vous-même, vous êtes farouchement opposé à la France Insoumise, à ce pass vaccinal. Pour quelles raisons, Danielle Obono?
D'abord parce que ce pass n'a absolument rien de sanitaire. C'est avant tout un moyen d'essayer d'obliger à la vaccination. Depuis plusieurs mois, par exemple, la CNIL demandait au gouvernement de savoir quel était l'objectif sanitaire du pass, et il n'a jamais pu répondre. Et puis, Olivier Véran a tout simplement avoué que effectivement, c'est une manière d'obliger à la vaccination. Or, depuis le début de la crise, l'Organisation mondiale de la santé explique que, en matière de vaccination, il faut convaincre et non pas contraindre. Et donc, nous tenons à cela. Et le pass sanitaire qui devient pass vaccinal n'est qu'un moyen à la fois de viser et d'essayer d'obliger les personnes non vaccinées à se vacciner, n'a pas d'effet sanitaire et même a un effet, on va dire, contradictoire parce que il donne l'illusion d'être protégé alors qu'on sait que si le vaccin est utile, il est nécessaire, il permet de moins contaminer et d'avoir des formes moins graves de Covid. Il n'empêche pas la contamination et donc, de notre point de vue, ce n'est pas une protection suffisante et donc il n'y a pas de d'effets directs de ce point de vue de ce pass sanitaire et donc voilà pourquoi nous y sommes opposés parce que en dernier lieu aussi c'est quand même une régression en matière de droits et de libertés fondamentales qui nous semble absolument disproportionnée.
Ça veut dire que pour vous on crée des non-citoyens finalement à travers ce pass vaccinal? Danielle Obono, est-ce que vous nous entendez?
Oui,
ça a l'air un peu compliqué.
Je disais
justement sur cette question du pass vaccinal, vous avez l'impression que au final on créerait potentiellement des non-citoyens ou des demi-citoyens?
Ah oui, non, mais très clairement, il s'agit d'une mesure qui va discriminer une partie de la population. Et d'ailleurs, le Premier ministre l'a lui-même reconnu en disant qu'il s'agit de faire peser le poids de la contrainte sur les non-vaccinés. Et donc, c'est une remise en cause du contrat social, de droits fondamentaux. Je rappelle que même si il dit qu'il s'agit d'une forme d'obligation déguisée, il n'a pas mis en place d'obligation vaccinale. Donc, les personnes qui font le choix de ne pas se vacciner ou ne sont pas vaccinées pour diverses raisons ne commettent pas de délit. Ce n'est pas une infraction, c'est encore moins un crime. Donc le fait de leur remettre en cause un certain nombre de droits et de libertés et de notre point de vue d'abord inconstitutionnel, et nous saisirons le Conseil constitutionnel de ce point de vue, mais oui, c'est une remise en cause grave des droits et de l'état de droit. Et
Donc vous allez saisir effectivement le Conseil constitutionnel sur ce sujet.
Oui. Tout le monde en fait, en vérité, parce que nous allons être soumis aussi. Tout le monde va être soumis, les vaccinés et non vaccinés, à toujours plus de contrôle, y compris par des gens qui n'en ont pas l'autorité, comme par exemple les agents de police. Et donc ça crée aussi une société de surveillance, ça crée de la discorde, ça oppose les citoyens les uns et les autres, tout simplement pour masquer par ailleurs l'échec de la politique sanitaire du gouvernement, parce qu'on en est aussi là, on est à une cinquième vague, parce que le gouvernement n'a pas une politique qui permet de protéger suffisamment, et a notamment choisi de faire de la réponse sanitaire qu'autour du vaccin, qui est de notre point de vue aussi une erreur, parce qu'il a délaissé tous les moyens de prévention et tous les moyens complémentaires qu'il faudrait.
On va y revenir bien sûr, Daniel Obono. Déjà, alors vous parliez du contrôle, effectivement, c'est la question du contrôle par les professionnels de la carte d'identité sur ce pass vaccinal, donc qui devrait être discuté, hein, notamment. Concrètement, c'est quoi les amendements que vous avez prévus à la France Insoumise, vous avez prévu vous-même, Daniel Obono, à partir d'aujourd'hui à la Commission des lois?
Nous avons plusieurs dizaines d'amendements de suppression des articles. Des articles 1 et 2 qui concernent directement l'instauration du pass vaccinal. Et puis, nous avons des amendements, justement, de propositions. Nous espérons qu'ils seront recevables, puisque ce sont des amendements, par ailleurs, que nous déposons régulièrement depuis le début des débats parlementaires sur ces textes, justement, qui visent à compléter la politique sanitaire, en fait, constituer une véritable politique sanitaire globale qui ne serait pas uniquement autour... qui ne serait pas autour d'une obligation vaccinale comme le fait le gouvernement, mais la mise en place d'un certain nombre de moyens de prévention complémentaires comme les tests et les masques gratuits, comme les purificateurs d'air et les capteurs de CO2 dans tous les lieux recevant du public. Nous demandons à ce que le gouvernement prenne une position pour la levée des brevets et mettre en œuvre, la France va être à la présidence de l'Union européenne, par exemple, et devrait mettre en œuvre la bataille pour la levée des brevets, pour que tout le monde soit vacciné sur la planète, parce qu'on est quand même dans une situation assez incohérente où le gouvernement veut obliger à la vaccination en France en croyant qu'on combattra une pandémie mondiale simplement dans un seul pays et en laissant les autres pays sans accès à la vaccination. Bref, donc voilà, ça c'est quelques exemples des propositions que nous faisons, parce que si nous nous opposons à la politique du gouvernement, nous pensons qu'une autre politique est non seulement urgente et possible, et ça fait partie des nombreuses propositions que nous faisons, qui d'ailleurs s'inspirent de ce que portent, par exemple, les collectifs de parents d'élèves et les syndicats de l'éducation nationale. À quelques jours de la rentrée scolaire, on est sans véritable sécurisation des écoles, alors qu'il va y avoir
on attend toujours le protocole, effectivement,
d'enfants, de personnel, etc., qui vont se retrouver dans des établissements où ils ne seront pas suffisamment protégés parce qu'il n'y aura pas eu mise en place des procédures d'aération suffisantes, parce qu'ils n'auront pas de masques FFP2, par exemple, comme c'est le cas en Italie, où des masques FFP2 qui sont les plus efficaces à l'heure actuelle sont distribués au personnel. Donc voilà, ça c'est le genre de mesures de prévention qui sont aussi proposées par des associations comme l'Observatoire pour la transparence des politiques du médicament, qui mettent en avant tous ces moyens qui existent et que ne fait pas le gouvernement, qui préfère la répression et la contrainte.
Vous parlez de contraintes, Daniel Obono. Vous parlez de contraintes. Alors, on parlait de la question de, notamment de la rentrée scolaire maintenue, et on a entendu vos propositions du côté de la France insoumise. Ça va être aussi la rentrée pour pas mal de travailleurs aussi, et on apprend que sur la question du télétravail, eh bien, on s'interroge au ministère et on réfléchit à sanctionner éventuellement avec une amende les entreprises qui ne joueraient pas le jeu. Est-ce que c'est souhaitable selon vous, et est-ce que c'est vraiment applicable? Comment vous réagissez à ça?
Écoutez, le télétravail est une des formes. Et donc, soit c'est rendu obligatoire, ce qu'on va voir, ce que propose le gouvernement, et dans ce cas, il faudra le faire respecter. Mais encore une fois, je pense que il faut surtout aussi donner les moyens, parce que tout le monde ne peut pas être en télétravail. Vous savez, on l'a vu, bah, même dans les périodes de confinement et des couvre-feux, un certain nombre de salariés, de travailleurs ne pouvaient pas être en télétravail. Et donc, ces personnes-là étaient celles, d'ailleurs, qui étaient les plus à risque de contamination. Et de ce point de vue-là aussi, le fait que sur la question des entreprises et des salariés, on ne parle que du télétravail, qui est un des moyens, mais on ne parle pas, par exemple, le fait que les entreprises devraient fournir, par exemple, des masques FFP2 à leurs employés. Je pense au personnel de caisse de supermarché, par exemple, c'est le cas dans notre pays, et fournir des tests quotidiens. Ça pourrait être des mesures qu'on met en place, et on se donne les moyens aussi pour que l'État puisse accompagner les entreprises et puisse fournir tout cela. Ouais. Donc, vous voyez, là encore, je pense que le gouvernement choisit à chaque fois des stratégies sanitaires extrêmement étroites et qui focalisent l'attention, alors que pour un grand nombre de salariés encore dans ce pays, je vous le rappelle, beaucoup et notamment dans les emplois les plus essentiels et les plus précaires, ne seront pas protégés parce que ne pourront pas faire du télétravail. Et par rapport à ça, rien n'est mis. Quels sont les moyens donnés, par exemple, à l'inspection du travail pour s'assurer des conditions de dans les sites où il n'y aura pas de télétravail possible? Rien n'est dit là-dessus. Je me rappelle encore quand, au début de la crise, des inspecteurs du travail étaient sanctionnés parce que par leur hiérarchie, parce qu'ils voulaient faire respecter la protection des salariés. J'ai peu de confiance dans ce gouvernement pour assurer cette protection-là et donner les moyens, justement, y compris aux entreprises, pour que tout cela soit mis en place.
Daniel Obono sur Sud Radio, député LFI de Paris. On le rappelle, vous serez à la commission des lois tout à l'heure. Concernant l'hôpital public, le Ségur de la Santé, 19 milliards d'euros de promesses vis-à-vis de l'hôpital, des primes aussi vis-à-vis des soignants, 100 euros mensuels annoncés hier pour les infirmiers et infirmières travaillant en réanimation. C'est pas suffisant, ça répond pas au cœur du problème?
Bah écoutez, je ne crois pas, après les mois et les mois de mobilisation du secteur de la santé bien avant le Covid, après les nombreuses alertes pendant toute la crise, que les 100 euros donnés à un secteur en particulier, qui sont bienvenus pour ces salariés-là de la santé, mais ça reste en dessous de ce qu'il faudrait. Vous vous rendez compte que pendant cette pandémie, le gouvernement a continué à fermer des lits et des services, en partie parce que c'est sa stratégie en matière de santé, mais aussi en partie parce qu'il manquait du personnel. Et pourquoi est-ce qu'il manque du personnel? Parce que les soignants ne reviennent pas travailler, tellement elles et ils ont été maltraités pendant la crise et surtout avant la crise. Et donc, depuis 2 ans, le gouvernement avait prétendu que le Ségur, effectivement, était la réponse. Il ne l'a pas été, parce que au-delà de la modeste revalorisation salariale qui ne permet pas, par ailleurs, d'atteindre pour les personnels de santé qui étaient concernés le niveau moyen européen, on reste quand même en dessous, donc ce n'est pas suffisant. C'est l'ensemble des conditions de travail sur lesquelles les soignants et l'ensemble des personnels du soin, de la santé et du médico-social, parce qu'il y a eu aussi beaucoup d'exclus de ce Ségur qui n'ont pas bénéficié même de cette modeste revalorisation, pour l'ensemble de leur position de travail qui était à revoir. Et là, on avait effectivement l'occasion, quand M. Macron a dit « quoi qu'il en coûte », de renverser en fait la vapeur et de répondre aux revendications qui étaient très claires des soignants qu'on a considérés comme des héros et parce que c'était des héros et des héroïnes et puis ensuite qu'on a montré du doigt avec toute la focalisation sur l'obligation vaccinale des soignants et donc on voit comment encore une fois
conclure,
le gouvernement n'a pas su répondre.
Le temps passe malheureusement très vite, Daniel Obono. Pour conclure, un mot quand même sur la présidentielle. Christiane Taubira, vous avez lu sa tribune aujourd'hui dans Le Monde. À gauche, nos convergences sont suffisantes pour gouverner ensemble. C'est ce qu'elle dit. Est-ce que vous êtes d'accord avec l'ancienne ministre de la Justice?
Écoutez, je ne vois pas trop sur quoi je serais d'accord, puisqu'encore une fois, ce sont beaucoup de propos assez vagues, je trouve. Bon, tout le monde pourrait signer ça, à vrai dire, je crois, y compris Emmanuel Macron, dans ses bons jours, pourrait certainement être d'accord avec des grandes formules générales. Je crois que tout cela n'est pas sérieux. On a un moment important, on va être à un moment important à partir de janvier, à 3 mois de l'élection présidentielle. Et l'enjeu pour nous, l'objectif, c'est de s'adresser aux millions de Français et Françaises qui ne vont plus voter parce qu'ils sont dégoûtés des politiques qui disent une chose et font le contraire, notamment comme l'a fait le gouvernement de M. Hollande, dont faisait partie Mme Taubira, et qu'elle a soutenue pendant très 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 longtemps, dont elle se réclame, dont se réclame aussi un certain nombre de candidats, dont Mme Hidalgo. Donc aujourd'hui, il faut marquer une rupture avec tout cela et donner des perspectives
et donc, pas de,
la candidature de Jean-Luc Mélenchon. Et c'est d'ailleurs
pas
pour
de rapprochement.
Le mieux positionné aujourd'hui pour contester la droite et l'extrême droite, LREM, LR et Marine Le Pen. Et je crois que c'est
et donc pas de rapprochement avec Christiane Taubira, on l'aura compris de nouveau. Merci beaucoup Daniel Obono, député de la France Insoumise de Paris, membre de la commission des lois qui commencera donc cet après-midi l'étude du projet de loi sur ce passe vaccinal avec l'audition ministre de la Santé, Olivier Véran. Merci en tout cas à Daniel Obono d'avoir pris le temps de répondre à nos questions ce midi sur Sud Radio. Merci à vous, bon courage.
Et restez avec nous sur Sud Radio, nous allons parler des traitements pour lutter contre le Covid-19 et notamment du traitement Xenothera, une biotech nantaise. Peut-être en avez-vous déjà entendu parler, c'était il y a un mois sur Sud Radio, mais on va revenir dessus. Nous serons avec la directrice générale, Odile Duveau. Et oui, peut-être qu'un traitement français marche contre le Covid-19 et peut-être même qu'il est efficace contre Omicron. Odile Duveau nous expliquera tout ça sur Sud Radio. A tout de suite.
Sud Radio dans tous ses états, midi 13h. Benjamin Glaise.
À partir du début du mois de décembre, nous avons l'arrivée d'un nouveau médicament. Cette fois-ci, c'est un médicament antiviral. Il s'appelle le molnupiravir et nous fondons beaucoup d'espoir dans ce traitement.
Et oui, Olivier Véran, et les espoirs d'un médicament. Enfin, pour lutter contre le Covid, une entorse finalement à la politique du tout vaccinal. Mais voilà, nous sommes fin décembre et l'espoir semble avoir fait pchit, écarté par la Haute Autorité de Santé, le molnupiravir, car trop de doutes pesaient sur son efficacité. Mais la donne va peut-être bientôt changer avec un traitement français. Cette fois-ci, on en parle tout de suite sur Sud Radio avec notre invité.
Sud Radio Berkov dans tous ses états.
Et on retrouve donc Odile Duveau sur Sud Radio pour parler de ce traitement Covid potentiellement efficace contre Omicron. Ce serait une excellente nouvelle. Odile Duveau, vous êtes médecin, directrice générale de Xenothera Biotech à Nantes, basée à Nantes. Bonjour Odile Duveau.
Bonjour.
Bonjour Odile Duveau, merci d'avoir accepté notre invitation ce midi sur Sud Radio. Alors vous allez nous expliquer bien sûr comment il fonctionne ce traitement, c'est le XAV-19. Déjà, quels sont précisément les résultats que vous avez obtenus et qui vous amènent à dire, c'était le cas dans un communiqué que vous avez publié lundi, que votre traitement est efficace contre le nouveau variant, notamment Omicron?
Alors, on a un petit problème de connexion apparemment avec Odile Duveau.
On va essayer de la retrouver. Voilà, on vous a retrouvé.
C'est bon.
Voilà. Oui. Je pensais que vous étiez en train de réfléchir, que vous preniez votre temps. Mais effectivement, on vous a bien retrouvé. Oui, je vous demandais justement sur les résultats précis que vous avez du coup pu trouver concernant l'efficacité de votre traitement, notamment sur Omicron.
Alors, je suis venue à votre antenne il y a un mois exactement et j'ai expliqué
expliqué à ce moment-là que notre traitement était un anticorps, mais qui avait un avantage par rapport aux monoclonaux parce qu'il était polyclonal. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Je ne vais pas reprendre ce que j'avais dit à l'époque, mais qu'on a un avantage intrinsèque vis-à-vis des variants. Donc, nous avons malheureusement depuis appris que sur le variant Omicron, les anticorps actuellement disponibles n'étaient plus efficaces du tout, qu'ils perdent toute efficacité. Il s'agit des anticorps monoclonaux. Donc, ouais. Tout ce que nous avons tout de suite voulu vérifier, c'est est-ce que le XAV19 pourrait, comme les monoclonaux, perdre son efficacité. Donc, nous avons pu très vite travailler sur le variant Omicron et regarder dans quelle mesure le XAV19 le bloque et le neutralise comme il neutralise les autres variants et toutes les formes du virus actuellement en circulation. Et la réponse a été donnée au début de la semaine. Alors, ce sont ce qu'on appelle des expériences in vitro, c'est-à-dire dans un laboratoire, et qui a pu confirmer que le XAV19 marche, bloque l'interaction entre le virus et notre propre corps de la même façon pour Omicron que pour les autres variants. Donc, c'est une excellente nouvelle parce qu'aujourd'hui, on est démunis.
Oui, bien sûr. Alors, comment… Oui, je vous entends très bien. Comment on le prend justement, ce traitement? Comment ça se passe? Expliquez-nous un petit peu, justement. Est-ce qu'on le prend du coup avant? Est-ce qu'on le prend pendant, quand on est malade? Juste pour savoir un petit peu comment ça fonctionne pour nos auditeurs qui vous avaient peut-être pas entendu justement à l'époque sur Sud Radio.
Donc, alors, aujourd'hui, quand on prend un traitement par anticorps antiviral, donc comme le XAV19, eh bien, on doit prendre le traitement au moment de la maladie où le virus est un problème. Donc, c'est relativement tôt dans la maladie. Nous avons concentré notre effort sur les patients qui passent à 6 jours, entre 6 et 9 jours, une première phase d'aggravation de la maladie, et qui est une phase où souvent on commence à avoir des signes respiratoires et où il est encore intéressant de recevoir des anticorps pour lutter efficacement contre le virus.
Donc, alors,
Oui, allez-y.
Oui, je disais, vous avez lancé d'ailleurs un appel au gouvernement pour obtenir ce que vous attendez, une demande d'autorisation précoce. Expliquez-nous un petit peu ce que c'est que cette autorisation d'accès précoce au deal du veau, comment ça fonctionne et qu'est-ce que vous en attendez justement de la part du gouvernement à ce niveau-là?
Oui, c'est très important. Donc, on peut, lorsqu'un médicament a suffisamment de preuves d'innocuité, donc il n'est pas dangereux et qu'il a une bonne présomption d'efficacité pour les patients, on peut recevoir ce qu'on appelle une autorisation d'accès précoce, qui est une pré-AMM, hein, en quelque sorte. C'est délivré au niveau national.
Autorisation de mise sur le marché, AMM. Ouais.
Voilà, AMM, merci. Nous, en France, nous avons deux instances réglementaires qui s'occupent de ça, qui sont l'ANSM et la HAS, et qui sont des instances indépendantes. Donc, ce que nous demandons au gouvernement, ce n'est absolument pas d'influencer la décision, qui est une décision médicale et scientifique, qui doit être prise par ces instances réglementaires. Ce que nous demandons au gouvernement, c'est de nous aider à obtenir les données cliniques de l'essai, parce que les autorités nous les demandent et qu'aujourd'hui, nous ne les avons pas en nos mains pour pouvoir répondre à la demande des autorités. Alors, pour vous donner une illustration de cette indépendance, vous avez cité tout à l'heure l'intervention du ministre de la Santé, Olivier Véran, disant qu'il y allait avoir un traitement à la disposition des gens, en l'occurrence le molnupiravir. Et de fait, les autorités indépendantes, ANSM, AHS, ont décidé que non, le service médical rendu n'était pas suffisant pour autoriser ce médicament pour les patients. Et c'est très bien que nous ayons des autorités indépendantes. En revanche, nous avons besoin de l'aide du gouvernement pour que nous finalisions le dossier que nous avons déposé dès le mois de septembre.
Concrètement, en quoi il peut vous aider le gouvernement justement pour accélérer tout cela?
Alors, le gouvernement peut nous aider en exprimant auprès notamment du CHU de Nantes le fait que nous avons besoin des données cliniques et que le CHU de Nantes doit effectivement nous les transférer pour que nous puissions répondre aux questions des autorités de santé. Ouais. Et ça, le gouvernement est tout à fait en mesure de le faire. C'est indépendant, ouais, ce n'est pas du tout lié aux autorités réglementaires.
On a bien compris. Et alors, est-ce que le gouvernement vous a répondu? Est-ce que j'imagine que vous êtes en contact avec le gouvernement. Est-ce qu'ils ont répondu favorablement à cet appel?
Alors, écoutez, c'est une question à laquelle j'aimerais vraiment de tout mon cœur pouvoir répondre oui. Mais en l'occurrence, aujourd'hui, alors c'est aussi la trêve des confiseurs, c'est pour ça que nous avons rappelé ces résultats, enfin nous avons annoncé ces résultats extrêmement intéressants contre le virus Omicron, mais à ce jour, non, nous n'avons pas encore eu de réponse. Il faut bien comprendre aujourd'hui que le gouvernement, le ministère de la Santé, en particulier le ministère de la Recherche, bien sûr tout le monde, hein, tout le gouvernement, est dans une situation très très compliquée puisque tous les traitements qui étaient autorisés jusqu'ici tombent. Puisqu'ils ne sont plus du tout actifs. Donc, l'intérêt d'un nouveau traitement comme le nôtre, en tout cas de le regarder, de l'examiner en toute impartialité, devient d'autant plus critique. Donc, on espère.
Avec un gouvernement qui a été quand même pas mal critiqué, on l'a vu à l'instant avec Daniel Obono de la France Insoumise, mais on a pas mal de députés, d'élus politiques, voire même de citoyens qui dénoncent ou qui critiquent d'une certaine façon le fait que le gouvernement a trop fait sur le vaccin et un peu oublié notamment les traitements. Est-ce que vous le regrettez ça? Est-ce que vous avez l'impression, cette impression-là aussi, que le gouvernement est un petit peu passé à côté sur la question des traitements, à trop se focaliser sur les vaccins? C'est un regret, une impression que vous avez eue, que vous avez toujours en partie, peut-être.
Alors, je fais partie des gens dès le début qui ont dit qu'il fallait absolument avoir deux bras pour lutter contre la pandémie, vaccin et traitement. Donc, j'ai beaucoup milité pour les traitements. Sur le plan du soutien du gouvernement, je dois bien insister quand même sur le fait que Xenothera, par exemple, notre projet XR19, a été soutenu depuis le départ, puisque nos activités de recherche ont été subventionné, enfin financé en partie. Nous avons aussi investi, bien sûr, à titre personnel, c'est normal. Et donc, il faut se rappeler que Emmanuel Macron a pris la décision au mois d'avril de précommander des doses de Xav19 pour les patients français. Et d'ailleurs, nous avons à ce jour 25 000 doses qui pourraient être à la disposition des patients dans les hôpitaux. Donc, j'estime que le soutien a été quand même assez actif et je suis d'autant plus intéressés et optimistes sur le fait que nul doute qu'on va finir par nous répondre.
Et donc vous êtes déjà en partie prêt à, éventuellement à commercialiser justement ce Xav19. Un dernier mot, c'est vrai que c'est aussi une fierté française. Je crois que sur les autres traitements dans le monde à anticorps polyclonal, vous êtes le plus avancé, c'est ça, aujourd'hui?
Oui, alors c'est très très important. Effectivement, il y a une dizaine de projets d'anticorps polyclonaux dans le monde. Et le Xav19 de Xenothera est l'un des plus avancés, avec aussi un projet en Argentine. Et nous avons une technologie particulière qui nous donne en plus des avantages par rapport aux autres projets. Donc moi, je suis confiante. Et puis, ça fait du bien de se dire qu'en France, on fait de temps en temps des choses qui sont belles et qui peuvent être des belles réussites.
Bah
Vous
vous
n'êtes pas
avez
d'accord?
raison de le noter, effectivement. Bah oui, dès qu'il y a de l'espoir, c'est important, ça fait du bien. Et puis en plus, quand c'est français, ça fait encore plus de bien. Un grand merci en tout cas, Odile Luveau, d'avoir été avec nous ce midi sur Sud Radio. Je rappelle, vous êtes médecin, directrice générale de la start-up Xenothera Biotech Nantaise, donc qui développe ce traitement d'anticorps contre le Covid, le Xav19. Merci et bonne fête à vous.
Merci, au revoir.
Merci beaucoup Odile Duvaux. Restez avec nous sur Sud Radio. Nous serons juste après la pub avec Nicolas Leblond, doyen de la faculté de droit et d'administration publique de Valenciennes et auteur de cette tribune dans le Figaro Vox. Covid-19, voulons-nous vivre à vie sous un régime de restriction de liberté? Nous allons nous poser des questions sur notre état de droit.
Grande question,
Et oui, et
vaste
c'est
question.
Très important. À tout de suite sur Sud Radio.
Midi 13h, Sud Radio dans tous ses états, Benjamin Glaise.
Et on prend le temps du débat Sud Radio Parlons Vrai avec des concepts qui peuvent sonner un peu creux parfois, mais qui sont pourtant essentiels, qui plus est en temps de crise, au moment où il est d'autant plus difficile de prendre du recul. État d'urgence sanitaire, état de droit, libertés individuelles face aux restrictions, aux obligations, le recul, on va le prendre tout de suite sur Sud Radio avec notre invité du face-à-face.
Sud Radio Berkov dans tous ses états. Le face-à-face.
Ce face-à-face sur Sud Radio, aujourd'hui dans Sud Radio dans tous ses états, on est avec Nicolas Leblond qui nous rejoint, doyen de la faculté de droit et d'administration publique de Valenciennes et auteur de cette tribune dans le Figaro Vox, Covid-19. Voulons-nous vivre à vie sous un régime de restriction de liberté? On va en parler de cet état de droit notamment. Bonjour Nicolas Leblond.
Bonjour, merci de votre invitation.
Bonjour Nicolas Leblond, bah, c'est un plaisir de vous recevoir ce midi sur Sud Radio. Effectivement, tribune très intéressante que vous avez publiée sur le Figaro Vox. Et le titre notamment est important, hein. Joseph nous le donnait à l'instant, voulons-nous vivre à vie sous un régime de restriction de liberté. C'est une façon de dire, d'une certaine façon, Nicolas Leblond, qu'il n'y a pas de fatalité, mais qu'il y a urgence à réfléchir en tout cas sur cette question-là.
Bah, c'est une façon de dire que, vu l'évolution de la maladie, vu manifestement son caractère endémique, c'est-à-dire qu'elle va durer dans le temps, et vu les restrictions qui sont toujours proposées, il est temps certainement de se poser la question de est-ce que nous voulons que ça devienne un état permanent. Et comme on est en année présidentielle, l'objet de ma tribune, c'était un peu d'alerter et d'interpeller les candidats pour leur dire propos. Dites-nous ce que vous en pensez et allons-nous vraiment devoir vivre à l'avenir sous un régime de restrictions, de passe vaccinal, etc.
Concrètement, alors vous avez parlé du passe vaccinal qui va débuter son parcours législatif aujourd'hui avec la commission des lois. Concrètement, en quoi il est menacé au-delà de ce passe vaccinal aujourd'hui notre état de droit, Nicolas Leblond ?
Bien. En fait, il faut distinguer deux choses, la forme et le fond. Sur la forme, notre état de droit existe et il fonctionne correctement. Les lois sont votées par le Parlement, qui est élu, elles sont contrôlées par le Conseil constitutionnel. Mais dans le fond, on peut peut-être discuter, parce qu'on voit bien qu'il y a une centralisation du pouvoir. Les mesures sont prises en Conseil de défense, le Parlement est réduit à une chambre d'enregistrement. Et puis aussi, les éléments de contrôle, les juridictions de contrôle, que sont le Conseil d'État et le Conseil constitutionnel, apparaissent véritablement alignés en réalité, et peut-être comme elles aussi des chambres d'enregistrement. Il y a une proximité avec le pouvoir qui est certainement une proximité intellectuelle, mais aussi de formation
et de nomination
de travail. Ouais, de domination
pour
peut-être.
Le Conseil constitutionnel.
Qui fait que on a un état de droit qui, sur le fond, dysfonctionne. On va pas dire qu'il n'existe pas, évidemment, mais il dysfonctionne certainement. Il n'y a plus vraiment de contre-pouvoir.
Ce qui est surprenant, c'est ce qu'on a appris justement. Alors, l'écart peut-être est intéressant, la comparaison avec la Belgique, où le Conseil d'État a décidé hier de suspendre la fermeture des salles de spectacle. Ça voudrait dire que, si je vous entends bien, là, c'est difficilement envisageable en France, aujourd'hui ?
Quand on lit les décisions que le Conseil d'État a rendues pendant cette crise, quand on lit l'avis qu'il a donné au projet de loi qui va être étudié, on se dit que le Conseil d'État est totalement en lien et totalement aligné même avec le gouvernement. Je ne sais pas si vous avez lu l'avis du Conseil d'État, mais dans son avis, au point 8 notamment, il explique au gouvernement qu'il le passe vaccinal, comme de toute façon la vaccination n'empêche pas la transmission ou les contaminations, il dit finalement il faudrait intégrer à la réflexion et à l'objectif le fait de ne pas surcharger les hôpitaux. Et en fait, le Conseil d'État dit une chose très simple. Il dit, puisque la base de réflexion ne fonctionne plus et ne permettrait pas de valider la loi, changeons la base de réflexion, changeons le paradigme. C'est un peu comme si, en cours de jeu, on changeait les règles afin de pouvoir valider un résultat.
Avec, alors vous parliez du fond et de la forme, mais sur le fond, on a peut-être une bascule à travers cette crise sanitaire, avec la question d'un côté des libertés individuelles qui sont érigées en principe et qui deviennent peut-être finalement l'exception. Ça, c'est une bascule que vous avez constatée et que vous avez expliquée notamment dans cette tribune que vous avez publiée.
Oui, et puis je suis pas le seul, hein, de nombreux juristes, je pense
bien
à Muriel Fabre-Magnan par exemple, ou encore aujourd'hui François-Xavier Bellamy dans sa tribune au Figaro, disent la même chose. Il faut revenir un petit peu au principe, la liberté n'est pas la licence. C'est-à-dire que la liberté a toujours nécessité des bornes, des limites pour exister, hein. C'est Rousseau, c'est le contrat social. La limite, jusqu'alors, était considérée comme une exception, une borne. Or, depuis plusieurs années, et ça s'est aggravé avec le Covid, on voit l'érection continue de limites, et dans tous les aspects de nos vies. Le champ des libertés est de plus en plus contraint, et à la force, on a le sentiment que la liberté devient une tolérance de notre gouvernement, une sorte d'obol, un os à ronger. Il y a un renversement finalement de paradigme, hein, et que le pass vaccinal, à mon sens, illustre, c'est que on nous dit en fait vous êtes libre avec le pass vaccinal, libre de choisir entre la vaccination ou la non-vaccination. Mais sur le fond, c'est un leurre. Ne pas être vacciné va empêcher l'exercice d'une très grande partie de liberté individuelle. On ne pourra plus se déplacer, on ne pourra pas avoir une véritable vie sociale, pas de loisirs. De très fortes chances aussi qu'on puisse exercer un travail. C'est déjà le cas pour certaines professions. Il n'y a pas d'accès à la culture. En fait, la liberté n'est pas ici limitée, elle est conditionnée. Et ça, c'est un véritable changement. Parce que si la liberté est conditionnée, elle n'est plus une liberté en réalité. Et on a l'illustration dans les propos d'une députée, je crois, du Tarn, hein, qui nous a dit que la liberté devait être collective et plus individuelle. Et en fait, on arrive à cette conception de la liberté que l'individu n'existe plus, l'individu ne doit plus compter, seule la masse doit importer. Moi, ça me fait peur.
Mais d'autant plus, alors, Nicolas Leblond, avec la crise qu'on connaît aujourd'hui et les connaissances qu'on a de plus en plus sur l'efficacité de ces vaccins, où on voit que ça diminue la contamination, les cas graves, mais ça les supprime pas totalement. C'est-à-dire que, en fait, cet intérêt collectif qu'on avait et qui était mis en avant par le gouvernement au tout début, il en prend peut-être un coup aussi à ce moment-là.
Oui, l'intérêt collectif, il est... comment dire ? En fait, avec cette vaccination, on a l'impression que on va tout le temps devoir payer notre taxe, en quelque sorte, pour pouvoir jouir de notre liberté. Et l'intérêt collectif, il finit par écraser en réalité. Et moi, ce qui me fait peur, c'est qu'à force de contraintes, on ne vit plus et que c'est au-delà de notre état de droit, c'est notre démocratie qui pourrait être mise en danger.
Parce que c'est ce que vous dites, hein, dans votre tribune notamment, sur cette vigilance avec, et cette comparaison au régime autoritaire où là, bah, c'est la masse qui compte et l'individu ne compte plus. C'est ça la dérive finalement à cela.
Oui, j'ai regardé ces derniers temps divers films, je pense à Minority Report ou Demolition Man ou encore La Servante Écarlate, et dans ces dystopies, on a vraiment l'impression de rencontrer les choses qu'on vit actuellement, c'est-à-dire que on a des conditions pour pouvoir exercer nos droits, on est surveillé en permanence, demain on nous dit que des personnes privées qui ne sont pas investies d'un pouvoir particulier vont pouvoir contrôler l'identité, et en fait il y a
des restaurateurs, notamment les professionnels.
On en vient à une espèce de société que dans ma tribune j'ai qualifiée puritaine, c'est la surveillance de tous par tous, et c'est l'accès à la vie à la condition d'être pur, de présenter les certificats de pureté, entre guillemets, je sais que j'y vais un peu fort, mais les certificats de pureté en quelque sorte, pour pouvoir accéder aux différents aspects de la vie.
C'est la question, est-ce que c'est une première étape ou pas ? Parce qu'à ce moment-là, si on envisage effectivement cette notion de passe vaccinale, c'est-à-dire jusqu'où on ira ? Est-ce qu'il faudra à ce moment-là montrer, prouver qu'on mange bien, sainement, pour ne pas représenter un risque de mort précoce, de peser plus lourdement sur les finances de l'État, peut-être ?
C'est ça, c'est ce que je disais dans ma tribune. Je disais que la pente qui est empruntée avec le pass vaccinal est une pente qui n'a pas de raison de s'arrêter. Et je donnais notamment l'exemple de la grippe et du cancer. Et on m'a rétorqué, oui, mais c'est différent parce que le Covid, c'est contagieux. Mais en fait, moi, je ne parle pas je parle pas d'un point de vue médical, je parle d'un point de vue politique, d'un point de vue social. On nous dit que le Covid, c'est dangereux parce que ça fait peser un poids sur la société, sur les hôpitaux. C'est un coût pour la société. Et donc, il faut le contrôler. Oui, mais à ce compte-là, c'est la même chose pour à peu près tous les risques que nous vivons, pour la grippe, pour le cancer. Et je crains demain que cette idée de permis soit élargie. Vous pourrez avoir accès à différentes choses si vous êtes vacciné contre la grippe. On nous demandera nos analyses sanguines avant d'être soigné ou de savoir si on a le droit d'entrer dans un restaurant qui sert de la nourriture un peu grasse. Évidemment que tout ça est un peu caricatural, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a un esprit derrière cela. Moi, j'espère que, évidemment, c'est parce qu'on est en période de crise et que nos gouvernements ont bien conscience et ne veulent le faire que temporairement, mais il faut le dire.
Que pour c'est les ça que
j'aimerais.
Sanitaires.
C'est vraiment, j'aimerais qu'on le dise et que ce ne soit pas présenté comme quelque chose qui s'impose et qui fait partie de ce qu'on appelle désormais du cercle de la raison. Parce que si c'est le cercle de la raison, là, ça va s'élargir.
Je voudrais en revenir. Parce que vous l'avez dit, hein, c'est important, je le signale, je le répète, vous avez dit, j'aimerais pouvoir le dire, parce que c'est vrai qu'on a l'impression dans cette logique, alors peut-être du tout sanitaire, il y a un peu qu'une vérité finalement qui est tolérée, et le débat n'est peut-être plus possible ou plus autant qu'avant, on n'accepte pas la contradiction finalement.
Oui, Et là, je pense parce que, en fait, on a des difficultés philosophiques. Notre société est en perte de repères, en perte de valeurs, et on est dans une société qui est purement technique. Et on le voit avec le discours sanitaire. Hein, c'est ce que je dis dans ma tribune. Le discours sanitaire, parce qu'il se place dans une seule dimension qui est technique, ne connaît pas de limite, pas de garde-fou. Tout lui semble possible. Et le but, c'est d'éviter les malades et les morts. Je pense que notre société est malade de ne plus savoir appréhender la maladie, la mort et, en un mot, la fatalité. Il y a une nouvelle idéologie qui n'accepte de ce fait pas la controverse, c'est le scientisme. Cette idée que grâce à la technique, grâce au progrès, on va pouvoir, nous, humains, tout dépasser, tout surpasser. Je pense que c'est un manque singulier d'humilité et on le voit hein, dans les discours qui étaient tenus. On nous disait, si vous doutiez pas du vaccin, mais de son efficacité, vous êtes un complotiste. Et pourtant, trois mois après, on se rend compte que la critique n'était pas totalement infondée. Je dis pas, moi, je suis vacciné, j'ai aucune difficulté avec ça. Je dis simplement.
Oui, et c'est important de le préciser pour nos auditeurs. Là, on réfléchit pas en termes véritablement sanitaires, mais plutôt au sens large, avec justement la question plutôt philosophique et puis en matière de droit aussi. Oui.
Oui, moi je pense qu'il faut raisonner maintenant en termes politiques. Le droit, c'est de la politique, hein, et c'est de la philosophie. Moi, je n'ai pas les compétences pour m'expliquer ou prendre position d'un point de vue sanitaire. Je dis simplement que attention, n'abordons pas le sujet d'un point de vue purement technique, parce que à ce compte-là, on arrive à ne plus discuter entre nous et on arrive à ne plus s'entendre. Notre société a besoin de pacification, de paix, et pour ça, elle a besoin d'écoute, de débat, et que chacun soit ouvert au discours de l'autre. Moi, quand j'entends des médecins me parler de médecine, je les écoute avec attention. Mais j'ai l'impression que la réciproque n'est pas tout à fait vraie hein, pour les débats que j'ai avec certains d'entre eux. Le droit, par exemple, la philosophie, la politique n'auraient pas de droit de citer. Une seule vérité serait admissible, c'est la vérité médicale. Mais non, la vie ne se résume pas à la biologie, la vie ne se résume pas à la médecine. Nous avons, pour vivre une vie complète, besoin d'autres choses aussi.
Nicolas Leblond, pour conclure en tout cas sur l'évolution aussi de l'opinion des Français vis-à-vis de, à travers cette crise sanitaire qui dure depuis 2 ans, il y a des choses quand même intéressantes. Je regardais là, il y a un sondage qui date d'il y a à peine un an qui indiquait que 52% des Français étaient opposés à la vaccination contre le Covid. On pourrait dire la même chose avec le confinement. Je pense qu'on aurait été peu nombreux avant la crise à se dire prêts à l'accepter. Pourtant, on l'a fait. Comment on explique changement aussi radical de l'opinion des Français sur ces sujets-là, qui sont des sujets capitaux, quoi, importants?
Bah parce que je pense que le peuple français est un peuple intelligent, est un peuple qui réfléchit, puis c'est surtout un peuple de démocrates. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas toujours d'accord, mais ils acceptent le fait que, contrairement à ce qu'on peut parfois entendre, nous réfléchissons tous collectivement.
Et donc, au candidat maintenant à la présidentielle de réfléchir aussi, comme vous l'indiquez, Nicolas Leblond. Oui,
et puis
très rapidement.
Nous dire, moi j'aimerais qu'ils nous disent quels sont leurs projets et leur modèle, le modèle de société qu'ils nous proposent.
Le modèle de société. Merci beaucoup Nicolas Leblond d'avoir été ce midi avec nous sur Sud Radio. Je rappelle, vous êtes doyen de la faculté de droit d'administration publique et de l'Institut Société et Humanité à l'Université Polytechnique Hauts-de-France. Merci à vous et à la prochaine. Allez, midi 13h. Merci à vous. Le midi 13h, c'est fini pour aujourd'hui. Un grand merci à Thibaut à la réalisation et à vous, Joseph Ruiz. On se dit à demain, Joseph, sur Sud Radio avec le Parlons Vrai comme toujours. Et puis au programme demain,
eh ben on se retrouve avec Cyril Brett, notamment maître de conférence à Sciences Po et surtout spécialiste de la Russie. Beaucoup de dossiers importants, le gaz, l'Ukraine, la dissolution de l'ONG Memorials. On le rappelle, midi 13h, soyez au rendez-vous. Vous pouvez rester sur Sud Radio pour les clés d'une vie avec Jacques Pessis et son invité Michel Leb.